Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié par La Découverte en 2019. Une histoire des langues et des peuples qui les parlent est une vaste synthèse de linguistique historique et de géographie culturelle due à Jean Cellier, historien et géographe. Le livre ne propose pas une grammaire comparée ni un simple répertoire de langues. Il examine les trajectoires des communautés qui les parlent, depuis les périodes antérieures à la naissance de l'écriture jusqu'aux mutations contemporaines. Son organisation combine trois grandes séquences, avant écriture, les cultures écrites avant imprimerie, puis les langues modernes, avec des chapitres distribués selon les régions du monde. Cellier traite ainsi aussi bien des langues classiques que du javanais, du swahili, du quechua, du yiddish ou des pidgins mélanésiens. Le propos central est que les langues changent au contact des migrations, des religions, des institutions, des conquêtes et des échanges. Accessible sans renoncer à ampleur documentaire, cet ouvrage de référence invite à lire Histoire mondiale à travers les circulations, les conflits et les créations linguistiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une chronologie mondiale qui distingue oralité, écriture et imprimerie, la structure en trois temps, constitue une des forces principales du livre. Jean Cellier sépare les mondes antérieurs à écriture, les sociétés où les textes restent principalement liés aux élites, puis les époques de diffusion plus larges des imprimés. Cette périodisation ne suppose pas que toutes les sociétés franchissent les mêmes seuils au même moment. Elle permet au contraire de montrer la diversité des rythmes historiques selon les régions. Avant écriture, les filiations linguistiques ne peuvent être abordées que par des reconstructions comparatives, éclairées avec prudence par archéologie et les mouvements de population. Avec écriture, inscriptions, archives, textes religieux et littérature rendent les évolutions plus visibles, sans donner automatiquement accès à toutes les pratiques orales. La généralisation de l'imprimerie modifie encore la situation en favorisant la fixation de normes, la scolarisation et la circulation de textes dans des publics élargis. Cette organisation rend intelligible un problème fondamental de l'histoire des langues, les sources disponibles déterminent ce que les chercheurs peuvent savoir. Elle évite donc de présenter les langues sans écriture comme dépourvues d'histoire. Leur histoire est plutôt plus difficile à documenter et demande des méthodes différentes. Le cadre chronologique sert ainsi à relier techniques de transmission, pouvoir culturel et connaissances historiques. Deuxièmement, les langues comme traces des migrations, des empires et des contacts durables. Le livre analyse les langues comme des réalités en mouvement, plutôt que comme des blocs stables attachés une fois pour toutes à un territoire. Les déplacements de population, les expansions impériales, les réseaux commerciaux et les conquêtes militaires créent des zones de coexistence où les langues se transforment mutuellement. Une langue peut se diffuser avec une administration, une religion ou une élite, tout en étant adaptée par les populations locales. Inversement, la langue des conquérants peut être progressivement absorbée ou limitée par les usages déjà établis. Cette approche aide à comprendre pourquoi la carte linguistique ne recopie jamais exactement les frontières politiques. Les héritages des empires, notamment dans les espaces européens, turco-iraniens ou américains, ne se résument pas à une succession de dominations, ils produisent des contacts, des emprunts, des bilinguismes et parfois des formes nouvelles de communication. Les pidgins mélanésiens, inclus dans le panorama, rappellent que les situations de contact peuvent engendrer des systèmes linguistiques propres. En mettant en rapport généalogie linguistique et histoire territoriale, Cellier montre que la diffusion ne signifie pas uniformité. Les langues se propagent par des institutions et des rapports de force, mais leur implantation dépend aussi des pratiques quotidiennes, des médiations locales et de la capacité des locuteurs à réinterpréter les héritages reçus. Troisièmement, écriture, religion et pouvoir dans la formation des langues de culture. Une place importante est accordée aux systèmes écrits et aux institutions qui leur donnent autorité. Les débuts de l'écriture au Proche-Orient, les traditions grecques et latines, les mondes arabes et turco-iraniens, le rayonnement de l'Inde, la Chine, ainsi que les écritures méso-américaines sont envisagées comme des configurations historiques distinctes. Dans chacune, écriture ne sert pas seulement à conserver des mots. Elle permet administration, la transmission de savoir, la codification juridique, la diffusion religieuse et la constitution de patrimoine littéraire. Les langues associées à des textes sacrés ou à des appareils étatiques acquièrent souvent un prestige qui dépasse leur ère orale initiale. Mais ce prestige ne fait pas disparaître mécaniquement les autres langues. Les relations entre langues savantes, langues liturgiques, langues de cour et usages populaires peuvent être durables et complexes. Le cas du quechua, dont la description et la formalisation ont aussi été liées à la situation coloniale, illustre la nécessité de considérer les conditions politiques de la documentation linguistique. Le livre invite donc à ne pas confondre une langue attestée par de nombreux écrits avec une langue intrinsèquement supérieure ou plus vivante. les archives reflètent des institutions particulières. Étudier leur production permet de comprendre comment certains idiomes deviennent des langues de culture, tandis que d'autres restent longtemps moins visibles dans les sources, sans être pour autant socialement négligeables. Quatrièmement, la modernité linguistique entre normalisation nationale et pluralité persistante dans sa partie consacrée aux langues modernes. Ouvrage examine les effets de la construction des États, de écoles, de administrations et des politiques de standardisation. La montée des langues nationales transforme les conditions de reconnaissance des idiomes locaux. Une variété élevée au rang de normes écrites peut devenir le vecteur principal de l'enseignement et de la mobilité sociale, tandis que des parlers régionaux sont relégués, stigmatisés ou privés de transmission familiale. Célier ne présente toutefois pas ce processus comme universel ni uniforme. Les situations européennes mettent en évidence des contrastes entre centralisation forte, pluralité dialectale durable et héritage multilingue issu de grands ensembles politiques. Les trajectoires du breton, du yiddish ou du romani rappellent que les langues peuvent être liées à des communautés dispersées, minorisées ou transfrontalières. Le livre aide ainsi à distinguer langue officielle, langue maternelle, dialecte et pratique de communication, catégories souvent confondues dans les débats publics. La normalisation peut faciliter la diffusion des textes et des institutions, mais elle produit également des hiérarchies entre usages. Comprendre cette tension rend plus précise analyse des phénomènes de recul linguistique. Une langue ne disparaît pas seulement par manque de locuteurs, son avenir dépend de sa transmission, de son statut social, de ses usages écrits et de la place que les institutions accordent aux personnes qui la parlent. En dernier lieu, une histoire mondiale qui refuse de figer la langue et le peuple. Le titre associe langues et peuples, mais la démarche de Célier appelle précisément à manier ces deux notions avec prudence. Une communauté humaine ne se définit pas toujours par une seule langue, et une langue peut être partagée par des populations ayant des histoires, des identités ou des états différents. De même, la frontière entre une langue, ses dialectes et des variétés proches est souvent graduelle plutôt que nette. Cette réserve méthodologique est essentielle pour une histoire mondiale, elle empêche de transformer les classifications linguistiques en catégories politiques immuables. Le livre privilégie une vision relationnelle, dans laquelle les langues cohabitent, se heurtent, se modifient, se recréent ou cessent de se transmettre. La diversité actuelle, qui compte environ 6000 langues répertoriées, ne doit donc pas être expliquée par une simple juxtaposition de peuples isolés. Elle résulte de séparations géographiques, de contacts prolongés, de mobilité et de décisions institutionnelles. Cette perspective donne aussi sa valeur au parcours très large proposé, des langues classiques aux langues moins fréquemment abordées dans les synthèses généralistes. Le lecteur ne reçoit pas un classement figé des civilisations, mais des repères pour comprendre comment les usages linguistiques participent aux imaginaires collectifs tout en échappant constamment au découpage identitaire trop simple. En conclusion, une histoire des langues et des peuples qui les parlent conviendra au lecteur qui souhaite comprendre l'histoire mondiale au-delà des seules chronologies politiques. Il intéressera les étudiants, enseignants, amateurs de géographie, de civilisation et de linguistique historique, ainsi que toute personne cherchant des repères sur la place des langues dans les migrations, les religions, les empires et les États. Son intérêt pratique est de fournir un cadre de lecture pour interpréter des questions contemporaines telles que la standardisation scolaire, la minorisation des langues régionales, le plurilinguisme ou les effets durables de la colonisation. Son bénéfice intellectuel tient surtout au déplacement de perspective. Une langue est présentée comme une pratique sociale, un héritage historique et un espace de contact, non comme un objet isolé dans une grammaire ou un dictionnaire, par rapport aux atlas linguistiques, aux manuels de linguistique ou aux histoires nationales. Le livre se distingue par son ambition de relier une très vaste échelle géographique à une périodisation attentive aux conditions de transmission des langues. Les modules régionaux permettent une lecture continue ou sélective, sans réduire la diversité mondiale à quelques grandes langues dominantes. Cette ampleur impose nécessairement une synthèse plutôt qu'une étude exhaustive de chaque cas. Mais elle fait précisément la singularité de l'ouvrage rendre comparables des situations très différentes, tout en rappelant que les frontières entre langues, peuples et territoires demeurent changeantes. Il constitue ainsi une porte-entrée solide vers les liens entre histoire culturelle et histoire sociale. Si vous souhaitez soutenir Jean Célier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.